Suite des matins à 7h41 avec la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Ce matin, nous délaissons la chronique pandémique pour nous intéresser à un pays où la guerre civile a repris de la vigueur ces derniers jours.
Et ce pays, c'est la Libye, de l'autre côté de la Méditerranée. Et pendant que le monde compte les masques et les morts du coronavirus, et bien là-bas, les forces armées du GNA, le gouvernement soi-disant d'entente nationale reconnu par l'ONU et dirigé par Fayez al-Sarraj, ce GNA a relancé l'offensive dans l'ouest du pays contre les positions de l'armée rebelle du maréchal Khalifa Haftar. Pour le GNA, décrypte Al Jazeera, il s'agit de desserrer l'étau autour de la capitale Tripoli, de reprendre le contrôle de plusieurs localités côtières, ce qui a été fait en plusieurs attaques successives menées au sol comme dans les airs. Et ça fait un an, il faut le rappeler, que le maréchal Haftar, ses mercenaires russes et son arsenal fourni en sous-main par des grandes puissances occidentales et puissances du Golfe via les Émirats Arabes Unis, tentent d'arracher au GNA le contrôle de Tripoli et du pouvoir sur tout le pays. Al-Sarraj, lui, appuyé en particulier par une Turquie qui menaçait dès l'automne dernier de lancer une grande offensive terrestre en Libye, a donc choisi son moment pour lancer sa contre-attaque, ce moment d'accalmie mondiale où les grands fauves pensent leur plaie, ou plutôt, comme le décrit plus prosaïquement Al Jazeera, ce moment où l'Occident est complètement distrait par la pandémie. Résultat, après 2 semaines d'offensive, nous dit Roland Oliphant dans les colonnes du Daily Telegraph britannique, le gouvernement de Fayez al-Sarraj affirme qu'il est sur le point de faire céder le siège de Tripoli, imposé depuis un an donc par son ennemi, et le GNA ne compte pas déposer les armes avant d'avoir éliminé complètement la rébellion d'Haftar.
Le GNA qui peut compter sur la Turquie qui a une nouvelle fois montré les muscles vendredi dernier.
Oui, c'est le très pro-Erdogan Daily Sabah qui nous raconte ça en Turquie. Vendredi, on décollait en même temps depuis 2 bases aériennes turques, des avions de chasse, toute une flotte turque donc, qui comptait parmi elles au moins un bombardier. Il n'en a pas fallu plus pour que toute la tout ce que la Méditerranée compte d'analystes militaires retienne son souffle, attendant l'entrée en guerre tant annoncée et redoutée de la Turquie en Libye. Mais finalement, l'armada a fait demi-tour après avoir consciencieusement survolé les côtes libyenne. Ce n'était officiellement qu'un exercice aérien mené par la Turquie, mais bien plus sûrement un message de soutien tonitruant envoyé à Fayez al-Sarraj et au GNA, doublé d'une menace réitérée au maréchal Haftar et à ses discrets mais puissants alliés. Pour le Daily Sabah, qu'on se le tienne pour dit, il s'agit d'une répétition costumée de ce que déclenchera Ankara si les sponsors internationaux de la rébellion libyenne persistent à armer cette dernière. Quelle sera l'issue de cette nouvelle montée en intensité du conflit syrien? Eh bien, si comme le prédisent certains analystes stratégiques, les mercenaires étrangers d'Haftar devaient être décimés d'ici un mois à peu près par le Covid-19, alors cela pourrait conforter une réelle et complète reprise en main par les forces du GNA. On n'en est pas encore là. Pour le spécialiste des affaires libyennes Hussein Ibish, à lire sur le site de Bloomberg, la Libye glisse plutôt de plus en plus perceptiblement vers une issue fatale, la partition de son territoire en 2, l'ouest à Sarraj, l'est à Haftar. Aucun gagnant, puisque les rebelles d'Haftar ne semblent pas en mesure de vraiment prendre la capitale. En attendant, comme le constate Die Welt en Allemagne, elle semble loin les timides promesses de négociations et de paix en Libye qui avaient été ébauchées sous l'égide d'Angela Merkel lors de la conférence internationale qu'elle avait tenue avec les 2 belligérants et leurs alliés à Berlin au mois de janvier. La reprise des combats sur le terrain depuis 2 semaines, c'est une trahison pour la chancelière allemande, selon Die Welt, et l'une des principales conséquences, avertit encore le quotidien allemand, c'est le retour d'une autre catastrophe humanitaire, celle des migrants vers l'Europe qui fuient les combats en Libye, qui devraient s'embarquer donc par centaines sur la Méditerranée, alors que pour cause de coronavirus, on le sait, tous les ports italiens et maltais sont fermés à triple tour.
Et de la Libye, nous passons au Liban, Camille, où les mesures prises contre le coronavirus n'empêchent pas un retour de la contestation sociale.
Oui, au Liban, la révolution semble de retour malgré, c'est vrai, le Covid-19. C'est le grand titre de une de L'Orient le Jour ce matin. Et ça va prendre la forme de 2 journées d'appel à la mobilisation. Aujourd'hui et demain, des manifestations en voiture dans les principales villes du Liban Mais pas question de dénoncer les mesures sanitaires, hein, comme aux États-Unis, on en parlait hier, non. La démarche de la révolution libanaise se veut avant tout civique et protectrice de la santé de ses participants. Ça se fera donc sur 2 jours pour ne pas rassembler trop de monde en même temps. Aujourd'hui, pour les véhicules immatriculés pairs, demain, pour les impairs, 2 personnes maximum par voiture et masque obligatoire autant que possible pour tout le monde. Voilà donc comment la contestation libanaise veut se donner les moyens d'exister en ces temps d'épidémie et de confinement. Elle qui, depuis le 17 octobre dernier, 6 mois déjà, exige le départ de la classe politique qui dirige le Liban depuis 3 décennies, se partage le pouvoir et ses privilèges entre confessions religieuses et entre grandes familles. La colère populaire, on l'a souvent dit ici, est aussi bien évidemment économique, sociale, avec des Libanais qui s'appauvrissent toujours plus. Et en la matière, ce dernier mois de crise sanitaire et de mise à l'arrêt de l'économie n'a fait qu'aggraver les choses, écrit Janine Jalk dans L'Orient le Jour. Alors, le mouvement de révolte qui était en sommeil se réveille depuis dimanche parce que, disent ses organisateurs, la souffrance est la même et parce que la faim n'a pas de religion. La révolution, acte 2, donc, au Liban, c'est un peu ce qu'annonçait dès hier Liz Sly du Washington Post dans un article où elle prédisait justement la reprise des mouvements de colère qui ont agité la planète, on s'en souvient, cet hiver. En Irak également, c'est la fin de ces derniers jours qui ravive la colère avec des manifestations spontanées la semaine dernière dans les quartiers pauvres de Nasiriya et de Bagdad. Au Chili, la trêve imposée par le coronavirus tient encore, mais le président contesté, Sébastien Piñera, en a profité pour faire bâtir des murs protégeant les quartiers riches de la capitale Santiago. Partout, il faut donc craindre des explosions sociales, conclut l'article du Washington Post. Si la crise et l'enfermement économique, en tout cas des populations les plus démunies, devaient se poursuivre trop longtemps, et ce ne sont pas les couvre-feux et quarantaines derrière lesquelles se réfugient certains leaders en délicatesse avec leur peuple qui suffiront cette fois à étouffer la colère de ces peuples.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.